France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vision Le Cuivre, et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. C'est le dernier épisode de notre série sur les grands travaux, les projets de la démesure après les gigantesques barrages d'Éthiopie ou de Chine, après la rivière artificielle construite en Libye sous l'impulsion de Muammar Kadhafi et encore partiellement en service. Nous parlons ce matin des villes futuristes qui restent à l'état de mirage dans le Golfe.
Imagine a traditional city and consolidating its footprint.
Imaginez une ville traditionnelle dont on aurait minimisé l'empreinte au sol, désignée pour protéger et exalter l'environnement naturel. The Line abritera 9 millions d'habitants sur seulement 34 km carrés.
NEOM is not a giga project or a real estate development project.
NEOM n'est pas un gigaprojet ou un projet de développement immobilier. NEOM, c'est un exercice de création économique. Il s'agit de créer une région dans le royaume qui diversifie son économie. C'est le plus grand projet du programme économique Vision 2030, le pilier de ce programme en fait, et un outil pour diversifier une économie qui était historiquement une économie basée sur les hydrocarbures.
Je le jure sur Dieu, je vis ici depuis 40 ans. Mon père est mort ici, chaque brique ici, chaque mur a une mémoire. Mais je vais devoir partir. Regardez notre cuisine, elle est vide maintenant. Mes souvenirs et ceux de mon père ne sont plus là.
À chaque fois, c'est la même histoire, le même recommencement avec les programmes dits de rénovation urbaine. Ce ne sont pas seulement des vieux quartiers que l'on détruit, c'est plus subtil que ça. Ce sont des souvenirs, comme le dit ce monsieur, et c'est aussi l'amitié. Des amitiés qui se délitent, des habitants qui se dispersent et des conversations qui s'interrompent. Pour l'instant, les grands projets immobiliers des pays du Golfe ne sont que des courants d'air, voire ils n'existent vraiment que sur le papier et dans ces clips promotionnels qui vendent des villes verticales, futuristes, époustouflantes. NEOM en Arabie Saoudite, Masdar aux Émirats Arabes Unis, toutes deux en plein désert, histoire de montrer qu'on sait dompter les territoires hostiles. Jusqu'à présent, à Dubaï, l'espace public est un tapis roulant conçu pour transporter le client d'un magasin à l'autre, d'une climatisation à l'autre, d'une expérience à une autre encore meilleure. Ce sont les mots de l'écrivain Arnon Grunberg, dont l'un des romans se passe aux Émirats. Mais avec les projets titanesques censés sortir de terre dans les années qui viennent, on passe encore à une autre dimension. Ils se chiffrent en centaines de milliards de dollars et se veulent les laboratoires d'un futur post-pétrole, attirant capitaux étrangers et travailleurs internationaux, pourvu qu'ils soient très hautement qualifiés. Mais la réalisation de ces utopies urbaines s'avère plus compliquée que prévu. Les chantiers accumulent les retards, les ambitions sont revues à la baisse et les coûts explosent. Et s'ils attirent les investisseurs, reste à trouver leurs habitants, qui apparemment ne se bousculent pas au portillon digitalo-hologrammo connecté. Bonjour Laura Assaf.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure à la New York University d'Abu Dhabi et chercheuse associée au Centre français de recherche sur la péninsule arabique qui est basé au Koweït. Vous êtes spécialiste de la ville et des stratifications sociales aux Émirats Arabes Unis. Nous sommes en duplex depuis ici Touraine avec Roman Stadnicki. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université de Tours, chercheur associé au Centre français de recherche sur la péninsule arabique, vous aussi, toujours basé au Koweït donc, et vous êtes spécialiste de l'aménagement urbain et des villes dans le Golfe. Alors Roman Stadnicki, on vous avait reçu il y a trois ans déjà pour parler de cette mégalopole futuriste du nom de NEOM, portée par le prince héritier Mohamed Ben Salman en personne, en plein désert saoudien, au nord-ouest du pays, à la frontière avec la Jordanie. Trois ans plus tard, qu'est-ce qui est effectivement sorti de terre et qu'est-ce qui ne l'est pas?
Oui, en effet, à votre micro, fait partie de ceux qui avaient émis quelques réserves sur ce projet.
Je
avant
confirme.
Avant d'apprendre qu'il serait réduit, puisqu'on le sait maintenant, donc de 90%, c'est-à-dire qu'au lieu des 170 km prévus initialement pour l'un des projets phares de NEOM qui est The Line, finalement ce sont 2 et quelques kilomètres qui sortiront de terre.
Donc, de 170 à 2, oui, en effet, c'est une énorme réduction.
Voilà, si j'avais émis des réserves, c'était pas tant sur le projet en tant que tel ou son contenu, contenu urbanistique sur lequel il y aurait aussi beaucoup à dire, mais c'est parce que on sait, quand on regarde un peu la région et la communication autour de projets urbains, que en fait ce projet ne visait pas tant à produire une nouvelle ville ou une décentralisation du territoire saoudien qu'à incarner, et puis votre magnéto l'assumait en quelque sorte, à incarner une sorte de vision nationale. Voilà, c'est la vision du prince héritier qui engage un certain nombre de réformes sociales dans son pays et qui a donc toute une vision stratégique à long terme pour son pays, et qui ne visait pas tant à montrer cette vision qu'à aussi masquer en quelque sorte un certain nombre de difficultés dans lesquelles était prise la monarchie saoudienne, une guerre au Yémen dans laquelle elle s'est enlisée, l'affaire Khashoggi, vous vous souvenez de ce diplomate saoudien qui a été tué au consulat saoudien d'Istanbul.
Donc, en 2018.
Tout à fait. Donc on voyait ce que ce projet montrait au-delà de la ville et ce qu'il cherchait aussi à masquer en quelque sorte. La deuxième raison qui m'avait fait douter, c'est qu'on attend toujours en Arabie Saoudite que soient achevés de précédents grands projets de villes nouvelles, lancés il y a une vingtaine d'années sur le bord de la mer Rouge, au nord de Jeddah. Donc des projets qui n'ont pas non plus été achevés. Donc on sentait que ça allait être compliqué de mener simultanément tous ces nouveaux projets. Et puis la dernière raison, et là vous l'avez aussi résumé, c'est que ce projet fait le pari d'un déplacement massif de la population saoudienne. Il suffit de prendre la carte de la densité saoudienne pour voir que la population vit plutôt autour de Riyad, dans le centre du pays, et plutôt à l'est, donc dans la province où sont exploités les hydrocarbures aujourd'hui. Donc faire ce pari sur le déplacement de 7 à 8 millions de Saoudiens, c'était tout à fait illusoire.
Donc l'ampleur de la ville de The Line est passée de 170 km à 2, et tant pis pour ces transports en commun souterrains qui devaient parcourir les 170 km en 20 minutes. On va revoir tout le projet parce que j'explique bien, enfin je me permets de redire que Neom, c'est le projet en tant que tel, il comprend plusieurs méga-projets ou pôles de développement auxquels appartient cette ville The Line, mais aussi une station de ski comme Trojena qui, elle, ne peut plus se défiler. A priori, elle doit accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029, donc tout n'avance pas à la même vitesse dans ce projet Neom. Donc encore un projet qui va s'amoindrir considérablement. Il y a plusieurs grands projets, vous le disiez, Roman Stadnicki, qui n'ont finalement jamais vu le jour, comme City of Arabia, qu'on présentait au milieu des années 2000 comme le nouveau Dubaï, ou Silk City au Koweït, qui apparaît toujours sur les documents d'aménagement du Koweït, mais qui n'est pas sorti de terre. Maintenant, pour les Émirats Arabes Unis, leur ASAF, et plus précisément dans l'Émirat d'Abu Dhabi, où en est la ville de Masdar, qui se voulait un projet ambitieux de ville écologique.
Oui, alors vraiment de la même manière que Neom incarne un peu la vision actuelle politique, économique, urbaine du gouvernement saoudien, Masdar a été le projet phare en fait du projet politique émirien et d'Abu Dhabi
en particulier,
au milieu des années 2000, donc à un moment qui suit en fait un nouveau boom pétrolier au début des années 2000, donc où il y a des fonds pour ce type de projet. Et aussi, en fait, la prise de conscience de la nécessité d'un tournant, c'est-à-dire la prise de conscience que le pétrole va prendre fin, qu'il faut se lancer dans la diversification économique, qui devient vraiment à ce moment-là le leitmotiv du gouvernement émirien. Et donc, Masdar devient un peu ce projet sur lequel se concentrent toutes les communications, toutes les stratégies marketing aussi de cette nouvelle vision, qui sera la vision 2030 d'Abu Dhabi, avant la vision 2030 saoudienne, koweïtienne, etc. Et c'est assez intéressant de voir comment ces dates se répètent, en fait, à travers ces grands projets de planification des États du Golfe. Et donc, Masdar incarnait cet Abu Dhabi post-pétrole, donc la ville écologique, durable, construite dans le désert, mais faite pour être autosuffisante en termes énergétiques, etc.
Avec ce paradoxe d'ailleurs que ces projets sont censés préparer l'après-pétrole, mais ils restent même dépendants pour l'instant de l'argent des hydrocarbures, voilà. Pas seulement, mais en partie.
Et très, très largement financés en fait par les revenus pétroliers.
Donc ce projet lancé en pleine crise économique en 2008, qui avait moins touché Abu Dhabi d'ailleurs, parce que l'Émirat avait même dû renflouer celui de Dubaï. Les Émirats Arabes Unis sont une fédération de 7 Émirats. Donc lance ce projet de la ville de Masdar. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait exactement ce qui a vu le jour, ce qui est sorti de terre ?
Oui, alors il y a eu quelques éléments du projet initial qui ont été réalisés, donc des bâtiments à l'architecture assez spectaculaire encore. L'anthropologue Gökçe Günel parle d'un vaisseau spatial dans le désert pour décrire voilà ce projet architectural de Masdar. Il y avait eu un moment dans les années 2010, on pouvait aller visiter les petites voitures électriques qui amenaient du parking à l'extérieur de la ville à l'intérieur de Masdar. Donc il y a eu comme ça des petits éléments qui ont surgi. un projet aussi universitaire, en fait, de production de connaissances, etc., qui a accueilli pendant un temps des masterants et doctorants étrangers en grande partie, qui travaillaient donc sur la recherche, notamment dans le domaine environnemental. Mais tout ça, c'est petit à petit effiloché. En fait, ces quelques bâtiments sont restés finalement les seules constructions de Masdar, et c'est une ville qui est aujourd'hui reconvertie finalement en une banlieue assez classique de la ville d'Abu Dhabi, c'est-à-dire un espace largement résidentiel, où on s'est rendu compte assez vite que dans ces villes qui dépendent encore beaucoup des voitures pour le transport, bah, ne pas avoir de parking à l'intérieur, ne pas laisser les gens entrer avec leur voiture dans la ville, ça marchait pas très bien pour les convaincre d'y habiter. Donc petit à petit, le plan a été revu et finalement Masdar est devenu voilà, une banlieue d'Abu Dhabi comme les autres.
Donc un quartier qui devait être vraiment très ambitieux, de ville écologique, du futur. La ville de Neom en Arabie Saoudite qui passe de 170 km de long à 2, en tout cas pour les responsables des projets, il n'y a pas de problème, comme le dit par exemple ce responsable de The Line, c'était en mars.
The line has never been scaled back. The expectations and the aspirations of the kingdom are for a city.
The line n'a jamais été revue à la baisse. Les attentes du royaume, c'est une ville du futur qui peut accueillir 9 millions de personnes. Donc je pense que la manière dont ça a été couvert jusqu'ici a été un peu spéculative. Quand on dit qu'on ne va construire que 3 modules, c'est déjà 2,4 km de long. C'est déjà un demi-kilomètre de haut. C'est une très grosse structure, déjà une ville. On n'a jamais affirmé que nous pourrions construire les 170 km prévus. Vu d'un coup, ce serait comme construire New York ou Londres en 5 ans.
Le responsable du projet The Line sur la chaîne Al Arabiya il y a quelques mois, est-ce à dire, Roman Stadnicki, que ce que nous considérons vu d'ici comme des échecs, à tout le moins une déconfiture un peu grotesque suite à des annonces mirobolantes et des investissements colossaux surtout, est-ce que c'est ainsi ou pas que sont vécues les révisions des projets sur place? C'est-à-dire, est-ce que on peut se dire que ce responsable du projet est sincère quand il dit que non, ce n'est pas un échec?
Ce qui est d'abord à saluer, c'est le talent des communicants, hein, qui sont.
Il est très fort.
Voilà, probablement le premier staff local qui est non seulement chargé de continuer parfois à coup d'auto-persuasion, voilà, à promouvoir le projet, mais aussi à réagir à la contre-image désormais, hein, qui circule, sont ces vidéos virales de populations locales déplacées, des conditions de travail sur le chantier qui sont très compliquées. Donc il faut réagir à ça. Et je crois que l'une de leurs aussi, l'une des forces de frappe, c'est de voir que c'est cette simultanéité des projets qui leur permet donc non seulement d'assurer ou de répondre au d'envoyer un contre-feu ou une contre-communication à ce que nous voyons comme des échecs, mais aussi de s'appuyer sur d'autres projets simultanés. Donc effectivement, Neom, c'est pas que The Line, c'est cette station de sport d'hiver en montagne, c'est ce nouveau port flottant sur la mer Rouge, et donc de pouvoir s'appuyer comme ça sur d'autres projets. Et puis sur Masdar, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Masdar City, comme l'a très justement dit Laure Assaf, c'est une banlieue d'Abu Dhabi parmi d'autres, mais c'est aussi une marque qui sert à lever des fonds, à créer des partenariats internationaux, notamment autour des énergies renouvelables. Voilà, énergies renouvelables. Donc, finalement, la ville écologique est devenue une sorte de marque territoriale ou de start-up, de méga start-up, qui vit de ce point de vue-là. Donc, c'est la capacité, voilà, de rebondir, et puis de lancer simultanément plusieurs projets, et puis de ne pas hésiter à en reconvertir certains qui n'ont pas rempli les objectifs initiaux.
Alors certes, l'effet d'annonce et toutes ces pubs, ces moyens mis dans les publicitaires ont pris beaucoup de pouvoir manifestement dans les États du Golfe, peut-être plus encore que les urbanistes et les architectes, mais toutes ces publicités achetées à coup de millions qui permettent d'attirer et d'immobiliser des capitaux étrangers... Pourquoi partir du principe, Laure Assaf, que ça suffit? C'est-à-dire que les investisseurs, ils attendent bien quand même un retour sur investissement. Cette ville de Masdar aux Émirats, tous ceux qui ont investi dans une ville qui devait être verte et qui sans doute en attendait aussi des résultats en termes d'image, ça leur pose aucun problème que finalement ça ne soit plus qu'un petit quartier résidentiel comme un autre?
Je pense qu'il faut... c'est important de à la fois effectivement de s'intéresser à ces effets d'annonce, mais aussi de voir que on peut pas simplement, d'une certaine manière, balayer ces effets d'annonce comme seulement de la rhétorique. C'est des effets d'annonce qui sont aussi performatifs, qui créent un certain nombre de choses à la fois en interne, donc vis-à-vis des populations résidentes, nationales et expatriées qui vivent dans ces pays, et vis-à-vis des investisseurs étrangers. Et donc, d'une certaine manière, ces visions, elles sont performatives. quel que soit finalement ce qui en débouche. C'était le cas aussi, et là il y a peut-être une nécessité justement d'historiciser un peu ces grands travaux dans le Golfe, parce que NEOM, Masdar, etc. sont seulement d'une certaine manière les dernières instances ou les derniers exemples de grands travaux qui ont été mis en œuvre dès les débuts, de phases successives de grands travaux qui ont été mis en œuvre dès les débuts de l'exploitation pétrolière, qui à l'époque servaient principalement à rallier la population de ces nouveaux États, qui étaient en train de se construire, qui étaient en train de construire aussi un récit national, qui étaient en train de construire aussi une légitimité politique qui n'était pas évidente en fait au moment de la création de l'État émirien, par exemple. Et donc voilà, ces grands projets servaient d'abord à redistribuer la rente pétrolière à la population nationale, à rallier les gens ou justifier l'accaparement de cette rente aussi par les familles régnantes. Et puis, dans ces nouveaux projets, donc à partir du tournant des années 2000, l'idée est plutôt justement d'aller vers l'international, d'aller vers l'étranger, d'attirer ces investisseurs, etc. Et donc, les investisseurs, bah, une fois que... Donc ils ont mis certaines sommes dans ces projets-là, d'une certaine manière, il y a des projets qui peuvent plus échouer ou qui sont en permanence à la fois renfloués par l'argent du pétrole et qui continuent ou qui se transforment d'une manière qui va permettre de redispatcher ces capitaux.
Donc pendant très longtemps, des projets immobiliers qui ont l'objectif de construire une nation, pour le dire très vite, et qui s'adressent à des personnes dont on attend qu'elles vivent là, que pour toujours, qu'elles bâtissent des familles, qu'elles construisent quelque chose. Aujourd'hui, on s'adresse plutôt aux investisseurs étrangers, mais qu'est-ce qu'on en attend de ces investisseurs étrangers ou de ceux qui vont venir acheter dans le pays? Est-ce qu'on attend qu'ils restent là? Est-ce qu'on leur accorde la citoyenneté? Enfin, qu'est-ce qu'on fait d'eux, d'une certaine façon?
Alors, dans le cas là, il y a des stratégies peut-être un peu, à la fois globales dans l'ensemble de la région du Golfe et aussi un peu différentes suivant les pays.
Aux Émirats?
Voilà, dans le cas des Émirats où la population nationale est minoritaire, hein, c'est 11% des habitants, qui sont eux-mêmes, c'est un petit pays. On a aujourd'hui autour de 11 millions d'habitants. Donc, il y a en fait une nécessité, si on veut diversifier l'économie, on a besoin en fait de ces étrangers qui jusque-là étaient considérés plutôt dans le cadre de la modernisation du pays, etc., comme une étape nécessaire pour atteindre cette modernité, pour participer à la construction du pays, amener les savoirs qui n'existaient pas encore sur place, etc., mais qui, dans ce nouveau discours, en fait, se tournant vers la diversification économique, deviennent, d'une certaine manière, une nécessité structurelle pour faire marcher le marché de la consommation, le marché immobilier, qui fait partie de ces secteurs dans lesquels... qui sont essentiels à cette diversification économique, etc. Donc là, il y a une volonté de faire rester une partie de ces expatriés étrangers, en tout cas ceux qui ont suffisamment de richesses et suffisamment de qualifications, entre guillemets, pour servir ce projet politique.
Immeuble fait par Norman Foster, un des premiers immeubles faits par Norman Foster, ici, Index Tower. Bienvenue dans mon univers. L'espace minimal où j'habite, à l'intérieur, c'est vide, mais on a tellement à l'extérieur qu'on n'a pas besoin d'avoir rien à l'intérieur. D'ailleurs, l'asseoir, c'est surréaliste. Il y a une vue tellement incroyable de deux côtés que je préfère être dans le noir et profiter de la vue et de la vie dehors qui passe. Et voilà, là, ça, c'est ma salle de bain, c'est mon bonheur du matin. Voilà, Burj Khalifa, tout downtown, Sheikh Zayed et puis la mer.
Un architecte expatrié italien qui fait visiter son appartement dans un immeuble de luxe à Dubaï. C'est extrait d'un documentaire « L'exil des riches à Dubaï » sur la chaîne Bling il y a quelques mois. Il faut peut-être juste, Laura Saf, en quelques mots, faire une distinction entre Dubaï et Abu Dhabi, tous les deux émirats du sud des Émirats arabes unis, mais qui n'ont pas développé en même temps leur plus impressionnant projet immobilier. Aujourd'hui, c'est surtout à Abu Dhabi que ça se passe.
Oui, il y a eu, ça s'est d'une certaine manière diffusé, c'est-à-dire que Dubaï, qui avait une manne pétrolière moins importante que celle d'Abu Dhabi, l'émirat d'Abu Dhabi concentre plus de 95% des réserves pétrolières et 92% des réserves de gaz des Émirats. Donc c'est très clairement L'émirat qui domine, c'est aussi celui qui possède le pouvoir politique dans la Fédération des Émirats Arabes Unis. Donc Dubaï avait en fait adopté bien avant ces stratégies de diversification. Dubaï, c'était en fait déjà un port de commerce maritime prospère avant la découverte du pétrole. Et donc il a continué dans cette stratégie en fait de à la fois investir dans le commerce et puis diversifier vers la finance et l'immobilier, notamment les revenus du pétrole. Pour le futur.
Et c'est comme ça aussi qu'on voit apparaître à Abu Dhabi des problèmes de construction sur les îles environnantes, notamment Saadiyat avec le Louvre Abu Dhabi, la branche locale de la New York Université, mais qui sont aujourd'hui entourées de projets de construction de lotissements de luxe. Ce sont des villas qui sont très recherchées, paraît-il, car il s'agit d'une des seules zones de l'émirat d'Abu Dhabi où les étrangers peuvent acheter. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est pas le cas dans le reste de l'émirat. Alors maintenant, Roman Stadnicki, en Arabie Saoudite, où on a une division assez similaire à celle des Émirats, c'est-à-dire il y a à la fois les locaux qui vivent souvent dans des quartiers résidentiels loin des centres, il y a les travailleurs étrangers qui, s'ils sont non qualifiés, doivent souvent partager des appartements, et puis il y a les riches étrangers, eux, qui sont les bienvenus partout. C'est ça la réforme que l'Arabie Saoudite a instaurée cet été, un nouveau système d'attribution des permis de travail pour les expatriés. Est-ce que ça sert ces programmes immobiliers en particulier ?
Ce qui est clair, c'est qu'en Arabie et dans les pays voisins, il est temps de ne plus s'adresser uniquement à des investisseurs étrangers qui sont encore là. Hein. Vous avez encore quelques investisseurs qui viennent acheter parfois une moitié de tour. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de transactions immobilières. Donc, il est quand même important de continuer à attirer cette population. Mais il faut aussi de plus en plus s'adresser à des habitants. Donc ça passe par tout un tas de réformes, par la libération du foncier à l'accession à la propriété par les étrangers. Alors, effectivement, on parle des îles d'Abu Dhabi, mais elles représentent quand même une surface importante désormais de l'agglomération. Et puis, chaque année, on voit de nouvelles portions des foncières de ces villes qui sont accessibles aux étrangers, avec même certains projets qui indiquent qu'ils sont ouverts à l'ensemble des nationalités, sous-entendu les populations nationales et les étrangers. Alors dans les faits, les choses restent encore très très segmentées, très très ségrégées, on pourrait le dire sur place, mais il est important désormais de s'adresser à une large partie de la population qui est là, hein. C'est anecdotique, mais vous en parliez avec Laure sur les publicités désormais de certains projets pour Dubaï. Vous avez des personnages de type indo-pakistanais qui viennent remplacer les personnages de type européen, si vous voulez, qui jusqu'à présent étaient dominants sur ces affiches publicitaires. Donc ce marché asiatique notamment, que les Émirats et l'Arabie Saoudite ne peut plus désormais considérer simplement comme une réserve de main d'œuvre et donc de travailleurs immigrés, mais comme un marché émergent, sont les clients, entre guillemets, vers lesquels il faut se tourner, donc les nouveaux habitants auprès desquels il faut pouvoir aussi donner quelques gages. Alors, la citoyenneté, certainement pas, hein, puisque même quand vous naissez sur le sol saoudien ou émirien, au bout de 60 ans, votre permis de séjour, en général, prend fin. Mais vous pouvez accéder à la propriété, bénéficier de visas à condition de pouvoir acheter ou montrer votre capacité d'investissement, d'achat d'un bien immobilier, par exemple. Voilà ces signes d'ouverture à de futurs habitants de ces agglomérations.
Ces expatriés qui aujourd'hui font l'objet d'un nouveau système de classification en Arabie Saoudite, hautement qualifié, qualifié, basique, ce sont les trois mots retenus pour ce système de classification. Est-ce que tous ont le droit d'acheter ou auront, parce que je crois que ça entre en vigueur en janvier prochain, est-ce que tous auront le droit d'acheter et partout ou seulement dans certaines villes, voire certains quartiers?
Non, ce sera très ciblé. Hein. Les populations sont très différenciées, effectivement, entre nationaux, expatriés, asiatiques, du monde arabe, du continent africain, désormais aussi de plus en plus nombreux, et puis les expatriés occidentaux. Tout ça est effectivement très différencié. Donc non, les possibilités d'achat sont réservées d'abord à ceux qui peuvent avancer à peu près le quart du montant du bien avant même sa construction, et puis encore une fois pour certaines nationalités. Les nationalités les plus privilégiées, les plus recherchées sont encore une fois celles de l'Occident, de la Russie, qui investissent, des Chinois aussi de plus en plus qui sont les premiers acheteurs des nouveaux programmes à peine sortis de terre aujourd'hui.
Donc des incidences bien sûr sur l'organisation urbaine qui alimente dans les quartiers où les expatriés sont nombreux, où leur pouvoir d'achat est nécessairement stimulé par les primes versées par les employeurs, primes au logement par exemple, qui leur permettent de payer des loyers forts. Tout ça déstabilise les villes, alimente des prix très hauts dans certains quartiers sans rapport souvent avec la valeur réelle des biens. Mais pour les citoyens nationaux, leur ASAF, Emirati en l'occurrence, est-ce qu'ils bénéficient toujours, eux, pour leur logement, de l'État-providence? Et est-ce que certains sont intéressés pour investir, aller habiter dans ces nouveaux quartiers ou ces nouvelles villes, si nouvelles villes il y a?
Alors, la réponse à ces deux questions, et ça dépend.
C'est souvent le cas.
Voilà. Parce que, comme je le disais, une partie des projets urbains, en tout cas dans les premières décennies de la création de ces États et du développement urbain, la création de logements, etc., était aussi une manière de redistribuer la rente pétrolière à la population, de leur donner un enjeu, d'une certaine manière, dans le projet de modernisation, et donc dans aussi le projet politique de ces États. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On le voit avec le développement de tous ces projets immobiliers qui sont clairement destinés à des investisseurs étrangers, internationaux, potentiellement pour des résidences secondaires, etc., qui sont très clairement perçus par les nationaux de ces pays comme des projets qui ne leur sont pas destinés à eux, ce qui peut susciter certaines formes de mécontentement, même si ce mécontentement ne peut pas s'exprimer publiquement dans des États qui sont des États autoritaires, où l'expression publique est contrôlée et où surtout il est prohibé par la loi de critiquer le gouvernement, qui est une partie prenante de tous ces projets.
Mais non publiquement, c'est possible? Est-ce qu'on peut adresser un courrier à l'administration en disant « je vois que émerge de terre à côté de chez moi quelque chose qui ne me plaît pas ». Enfin, il y a quand même une discussion possible entre les résidents d'un quartier et les services publics.
Alors, quand il s'agit de ces grands projets, non. C'est-à-dire que, et on l'a vu, dans le cas des Émirats, ça se passe de manière un peu plus douce, parce que c'est un pays dont la population nationale est encore en petit nombre, on va dire, et donc il est encore possible pour l'État de fournir des logements, etc., aux nationaux. En tout cas, en partie, c'est pas le cas pour tous. Dans des pays comme l'Arabie Saoudite, ces projets se sont faits de manière beaucoup plus violente, hein, avec des expulsions de tribus locales, parfois par les armes.
Parfois condamnées à mort.
Et voilà. Donc,
dans le cas de Neom.
Tout à fait. Donc, on voit comment, voilà, ce sont des projets qui se font en partie contre les populations nationales, qui se font aussi dans un cadre où, en fait, tous ces projets de diversification économique, de façonner le futur, créer des investissements, etc., créer ces projets urbains, ça va aussi avec tout un discours de ces États qui correspond, en fait, à un retrait progressif de l'État-providence. On le voit très bien dans le cas des Émirats, où tout le discours sur la diversification économique, c'est un discours qui encourage les jeunes citoyens à ne plus choisir la voie paresseuse d'un emploi dans le gouvernement ou dans le secteur public, mais plutôt d'aller investir ces secteurs privés dans lesquels l'État est en train de se lancer. Et donc voilà, de prendre leurs responsabilités d'une certaine manière, et ça va avec un retrait progressif de cet État-providence.
Et en Arabie Saoudite, pardon, Roman Stadnicki, est-ce que les Saoudiens bénéficient encore d'avantages importants pour leurs propres besoins? Est-ce que l'État cherche encore, avec la rente pétrolière, à maintenir leur loyauté aussi, même si progressivement l'État-providence est rogné comme partout ailleurs?
Ouais, c'est une bonne question. D'une manière générale, les populations nationales ne souscriront à ces grandes visions stratégiques, extraverties, de grands rayonnements métropolitains, de places prépondérantes dans la mondialisation économique, qu'à condition, me semble-t-il, de pouvoir continuer à percevoir, alors ne parlons plus de rente, mais à percevoir de quelques avantages sur les populations extérieures. Or, ces populations nationales ont fait beaucoup de concessions depuis la mise en œuvre de ces grands développements, avec et ça se voit au plan de l'étalement urbain. Vous avez en Arabie à 30 ou 40 kilomètres de Riyad des quartiers désormais très excentrés, plutôt d'ailleurs dépourvus en infrastructures. Hein. On ne parle pas ici de smart city ou de villes 100% écologiques, mais des étendue de milliers de villas qui sont encore donc accordées à titre préférentiel, alors pas données comme elles l'étaient à leurs aînés, mais prêtées à taux zéro par exemple, donc avec des avantages fiscaux qui sont offerts aux populations nationales, mais qui sont de plus en plus excentrées, qui sentent de moins en moins les avantages du modèle qui est promu par ailleurs. Alors là est la question: jusqu'à quand on les gouvernements pourront de cette façon garantir une adhésion des populations à ces visions stratégiques. La question demeure ouverte au regard de ces évolutions récentes.
Et en attendant, la société saoudienne, de quelle façon est-ce qu'elle s'approprie ces espaces, en tout cas certains de ses membres, notamment dans ces projets qui sont pour l'instant non pas laissés à l'abandon, mais qui ne donnent pas les résultats escomptés?
Alors, il y a toute une blogosphère assez vibrante sur justement des critiques parfois faites par des comptes anonymes, justement des critiques vis-à-vis de ces projets. Dans la réalité, ça se traduit aussi par des petits mouvements de rébellion. Pascal Ménorel a montré de façon remarquable dans son ouvrage Royaume d'asphalte, en montrant comment les jeunes saoudiens prennent possession des banlieues donc asphaltées, mais encore peu équipées pour se livrer à quelques acrobaties automobiles. Donc il y a là, c'est un signe hein, aussi peut-être indirect de mécontentement, de contestation d'un modèle qui est celui par lequel cherchent à exister ces gouvernements. Or effectivement, ce que nous commentons nous ici souvent en matière de communication urbanistique, etc., concerne finalement une petite frange de la population, c'est-à-dire de moins en moins les populations nationales qui sont effectivement excentrées et qui subissent l'amenuisement de la rente, et puis absolument pas non plus la majorité démographique, c'est-à-dire pas ce qu'on appelle les expatriés ici, puisque c'est souvent connoté aux expatriés d'affaires et aux occidentaux, mais les travailleurs, qui représentent quand même 70% de la population, 60%, 70% en Arabie, aux Émirats, qui elle, cette population, eh bien, prend possession souvent des quartiers centraux qui ont été délaissés par ces populations nationales, qui ont été construits dans les années 50-60, en plein boom, je dirais, pétrolier. Donc on a là plutôt des quartiers de forte densité de l'habitat collectif, et c'est dans ces hébergements, pour ne pas nommer les quelques camps de travailleurs qui n'ont pas encore été fermés, même si les gouvernements en place cherchent aujourd'hui à fermer ces espaces et à construire plutôt des habitats destinés aux travailleurs qui ne seraient pas associés à des camps. Mais voilà une population majoritaire au plan démographique dont finalement on parle peu et pour lesquels on a peu finalement d'images, hein, des modes d'habiter en général dans ces villes.
Alors à défaut d'entendre s'exprimer publiquement une critique des populations saoudiennes ou émiraties qui savent combien les pouvoirs tiennent à ces projets et combien ils sont liés aux entreprises qui les mettent en œuvre, est-ce que se manifeste une certaine nostalgie des lieux perdus? Laure Assaf, il me semble que c'est un aspect de la question qu'on n'entend pas souvent, qu'on n'aborde pas souvent. On parle de ces grands projets qui sortent de terre, il y a une forme de fascination mêlée de, non pas de dégoût, mais de rejet. En revanche, de parler de la nostalgie des gens qui vivaient dans ces quartiers qui ont été détruits, qu'est-ce que vous avez pu entendre à ce sujet ?
Oui, alors c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que c'était en fait un discours qui surgissait chez mes interlocuteurs, qui étaient donc des jeunes à la fois émiriens et expatriés arabes qui avaient grandi à Abu Dhabi dans les années 80-90 et que j'interrogeais au moment où ils devenaient adultes, donc dans les années 2010 et donc au moment de toutes ces transformations dont on a parlé, de ce changement de projet politique vers la préparation de l'après-pétrole, de la diversification économique, etc. Et donc autant pour les générations de leurs parents et grands-parents, il y avait eu un grand enthousiasme en fait pour la modernisation, pour la création d'infrastructures urbaines, etc., où la population était vraiment ralliée derrière ces projets. Autant ce sont des villes qui ont continué à se transformer de manière extrêmement rapide, de manière, on l'a vu, qui relègue de plus en plus les populations nationales, mais aussi les populations expatriées qui sont là de longue date, parce qu'il y a des malgré le caractère précaire du séjour aux Émirats pour les étrangers, il y a des gens qui sont là depuis 2, 3, voire 4 générations qui sont installés dans ces villes. Et donc en fait, ce sont des jeunesses à la fois donc émiriennes et expatriées qui se retrouvaient autour d'une certaine nostalgie pour les espaces urbains dans lesquels ils avaient grandi, dont la plupart avaient disparu ou qui s'étaient transformés de manière méconnaissable.
Par exemple.
Alors il y a quelques espaces comme ça clés qui ont concentré en fait ces discours nostalgiques. À Abu Dhabi, c'est une fontaine assez kitsch en fait qui s'appelait la Volcano Fontaine, donc la fontaine en forme de volcan sur la corniche.
Avec des sortes de faites en galets, en pierre.
Oui, c'est ça, en pierre, avec plusieurs étages. Enfin, il y avait un escalier avec plusieurs étages, plusieurs plateformes qui menaient à cette fontaine. Elle s'illuminait la nuit. Donc, c'était vraiment un pur produit des années 80, en fait. C'est une architecture assez kitsch, mais qui était devenue aussi un lieu de rendez-vous et donc un lieu de sociabilité importante pour ces jeunes qui, donc, étaient enfants et adolescents à cette époque. Et cette fontaine a finalement eu une durée de vie assez courte, puisqu'elle a été détruite au moment de l'embellissement de la corniche au début des années 2000, et en fait a vraiment concentré une partie de ses nostalgies et donc est devenu un élément qui est répété à la fois dans... Il y a eu des campagnes dans les journaux pour faire revenir la Volcano Fountain, initiée par un expatrié indien. Il y a eu aussi un artiste émirien qui a recréé cette fontaine dans une exposition dédiée aux années 90. Donc on est vraiment voilà, dans une nostalgie qui crée aussi un sentiment de communalité en fait, entre ces populations qui par ailleurs sont séparées par les stratifications politiques, sociales et économiques.
Il n'y a plus de fontaine volcan, mais il y a des îles palmiers.
Je déjeunais avec l'émir de Dubaï et il m'a demandé « Au fait, vous avez trouvé quelqu'un pour me designer cette île artificielle ?» J'ai dit oui et je lui ai montré le schéma. Il m'a dit « C'est quoi la longueur de la plage ?» J'ai dit « 7 km ». Et là, il m'a répondu « Pourquoi pas plutôt 70 ?»« Vous voulez dire 17 ?» je lui ai dit. Et là, il m'a redit « Non, 70 ».
C'est le responsable émirati qui est derrière ce projet d'île artificielle en forme de palmier, Palm Jumeirah, construit dans les années 2000, qui raconte cette conversation avec l'émir de Dubaï au journal Rallish Times, journal en langue anglaise publié à Dubaï. Peut-être en quelques mots, Laura Saf, que devient cette île palmier? On annonçait déjà son déclin en 2010. Ça veut dire quoi exactement? Et aujourd'hui, elle est toujours là, il y a toujours des gens qui y vivent.
Alors, elle est toujours là, il y a même plusieurs Palm Islands maintenant à Dubaï.
Elle a fait des petits palmiers.
Voilà, et ça fait partie de ces grands projets, donc c'est toujours des espaces de résidence en fait principalement d'expatriés aisés qui sont en fait elle a subsisté aussi en partie, bon c'est un lieu de tourisme, il y a beaucoup de grands hôtels sur cette île, elle a subsisté aussi en grande partie parce que les quartiers qui sont autour à Dubaï sont des quartiers assez centraux en fait d'habitat à la fois d'expatriés mais aussi de jeunes émiriens qui de plus en plus en fait sortent des quartiers familiaux et veulent s'installer justement dans cette ville moderne, cherchent aussi une certaine forme d'anonymat dans ces lieux. Voilà, donc c'est une île dont on a beaucoup décrit le caractère qui est entièrement fait de remblais sur l'eau, etc. Donc qui est aussi précaire en fait dans le sens où sa durabilité est contestée, mais qui fait partie un peu des exemples de ces grands projets parce que un élément typique, ce sont des projets qu'on peut voir de l'espace et donc ça reste. C'était aussi quelque chose qui était évoqué pour The Line dont on parlait au tout début. C'est un peu une des marques de fabrique, en fait, de ces grands travaux.
Alors, pour conclure cette première partie, Roman Stadnicki, des 7 émirats qui composent les Émirats arabes unis, il en est un qui détonne, qui n'a pas, comme les autres, d'accès de gigantisme. Il s'agit de Sharjah, qui est limitrophe de Dubaï. Vous avez consacré un article à Sharjah il y a quelques temps. Est-ce que c'est parce qu'il n'en a pas les moyens de s'investir comme ça dans des projets immobiliers futuristes ou sa différence est choisie?
Effectivement, je crois que c'est important de s'intéresser ou d'évoquer aussi le golf en dehors de ces images qui circulent abondamment et de montrer d'autres réalités. Donc Laure vient de le faire très bien avec cette mémoire urbaine en partage très intéressante. Je crois que Sharjah, mais aussi les autres émirats secondaires du Nord, ont longtemps regardé un peu avec circonspection hein, ce qui se passait à Dubaï, choisissant plutôt d'autres voies, celle de la culture, de l'éducation, de rapports aussi avec d'autres pays du Sud, plutôt négligés par la capitale économique de Dubaï. Donc, c'est pas qu'une question de moyens. Effectivement, les réserves pétrolières sont inexistantes à Sharjah. Il y avait un peu de gaz, mais il y en a plus. C'est pas qu'une question de moyens. Je crois que c'est une question aussi de posture politique. Alors, bien sûr, dans le régime de la fédération, vos marges de manœuvre sont assez réduites, mais une posture à la fois de conservatisme, de circonspection.
Y compris religieux, d'ailleurs.
Oui, ça passe aussi par un respect en tout cas de tradition plus marquée. C'était le cas aussi à Abu Dhabi il y a pas si longtemps, à Abu Dhabi qui avait à cœur il y a encore une vingtaine d'années de montrer que dans chaque nouveau quartier, il y aurait une mosquée par exemple. C'était absolument pas le cas à Dubaï. Alors Abu Dhabi est en train de la pression donc démographique et immobilière est en train aussi de prendre ce tournant immobilier de plein fouet. À Sharjah, c'est pas encore tout à fait le cas. On sent une ville un peu tiraillée entre une modernisation prudente, je dirais, discrète, et puis bien sûr sous l'effet de Dubaï à laquelle elle est coller. La tentation aussi d'aller vers quand même de plus en plus de programmes immobiliers du type de ceux dont on a parlé jusqu'à présent.
Et Acharja, c'est une entreprise publique, certes dirigée par la fille de l'émir, mais c'est une entreprise publique qui se charge des projets de rénovation et de construction qui concernent aussi par ailleurs de grands hôtels touristiques sur la côte. Mais ce modèle public détonne aussi avec le reste de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Vous posez la question, Roman Stadnicki, dans cet article, sommes-nous réellement à Acharja dans l'anti-modèle ou bien dans l'expression d'une modernisation prudente et un rapport ambivalent au modèle métropolitain de Dubaï? Acharja qui semble assez circonspect sur la question, le modèle de science-fiction qui inspire ces grandes villes. On en parlera dans le Focus juste après cette chanteuse saoudienne. ليكو running back to me راجع للأيام الماضية راجع القديم ناسي اللي صار على الفاضي ناسي أنا مين can't forget my name I forgot yours أنت مين نسيته رميته خليته على مين خليته على الجنب على الرصيف المسكين دعست عليه دعس خليته يبكي قلبي قسم ما لقى حد يشفي صدمت لحالي قومت نفسي لما جروحي يبرمي And I pull up, try a head up ما في hiccup, pick up And I'm fed up, now they know let go, yeah, you know I let go 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 كان too late, لا معليش, جا بعدين, جا بعد شو صرنا وترمينا وقمنا وجينا without you عبالي انت سند it was me never you عطيك كاف هو كلام سين هو شو سابك على الجنب يا مريض كلمة رجال لا دي كلمتي الوقف بالأفعال مش جالس فيه حليت مشاكلك ونسيتني سويت حالي وما حد كان جنبي Jara, chanteuse saoudienne née à Jeddah et sa chanson Laïko qui date d'il y a quelques semaines. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur les grands travaux des projets de la démesure aujourd'hui dans les états du Golfe, les villes futuristes qui, pour certaines quand même, restent pour l'instant de la science-fiction.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Introducing the new horizon for Riyadh. A new icon, the Mukarrab.
Voici le nouvel horizon pour Riyad, une nouvelle icône, le Mukarrab. La première destination au monde, immersive et expérimentale. Assez gros pour contenir 20 Empire State Buildings, où vous et vos proches entrez dans une nouvelle réalité. Il vous transporte sur Mars un jour et dans un monde magique le lendemain.
La publicité pour le projet Mukarrab en Arabie Saoudite, un cube immense de 400 mètres de côté. À quels imaginaires et quels films de science-fiction empruntent ces clips promotionnels, mais surtout les projets eux-mêmes, qui, contrairement aux films, doivent tenir compte des réalités. Bonjour Alain Musset.
Bonjour.
Merci beaucoup monsieur d'être avec nous. Vous êtes géographe à l'Institut Universitaire de France. Vous avez écrit Station Métropolis, Direction Coruscant aux éditions Le Bélial en 2019. Les amateurs de Star Wars comprendront l'allusion à la planète Coruscant. Ce projet Mukarrab dont on vient d'entendre le clip, Alain Musset, qu'est-ce qu'il a de futuriste en dehors de son aspect extérieur? À quel univers de science-fiction vous fait-il penser?
Oh ben le projet est absolument extraordinaire. Évidemment, je suis fan de science-fiction tout en étant géographe, et c'est vrai que c'est un truc immense, une des plus grandes constructions du monde, sinon la plus grande. Mais c'est surtout qu'il est prévu pour fonctionner avec des réalités virtuelles permanentes. Vous voulez aller sur Mars? Vous irez sur Mars. Vous voulez explorer la Lune? Vous irez. Pourquoi? Parce qu'on va vous offrir toute une palette de paysages complètement artificiels créés par le numérique dans lequel vous allez plonger en immersion totale. Et là, j'ai vu, comme beaucoup de gens, les merveilles de Mukarrab, et c'est fabuleux. La vidéo, on s'y croirait déjà. Alors, vous avez des air speeders, hein, justement.
Qu'est-ce que c'est,
comme
pardon,
dans
des
Star Wars ou comme dans le cinquième élément de Luc Besson. Ils ont directement piqué sur la source. Vous avez même une superbe course de pod racers, comme dans La menace fantôme de Star Wars. Et puis, il y a ces paysages absolument extraordinaires d'îles qui flottent dans l'espace, dans les airs, exactement comme dans Avatar ou comme dans Le château dans le ciel de Miyazaki. On s'y croirait, c'est la Bédalong en suspension. On nous propose du grand spectacle.
Qui produit ces vidéos, Alain Musset? Combien de graphistes, techniciens, programmateurs sont mobilisés? Je pense qu'on n'a pas les chiffres exacts, mais où sont-ils? Qui sont-ils? Est-ce qu'on sait à peu près les situer?
Oui, non, on ne les a pas, effectivement, parce que c'est très, très difficile à deviner. Mais il y a toute une entreprise qui a été créée complètement par le prince héritier, qui est fan de jeux vidéo. Hein. Il a investi des milliards et des milliards dans des compagnies comme Activision ou même Nintendo, enfin, peu importe. Mais il a créé Neom Media Industries, hein, donc ils sont devenus des producteurs très, très conséquents de ces vidéos de propagande. Et ces gens-là sont réunis dans le Neom Media Village, hein, qui est un endroit où toutes les possibilités sont ouvertes pour les gens qui travaillent dans le secteur du monde virtuel et des réalités numériques. C'est extraordinaire.
Donc il y a d'autres univers convoqués dans les vidéos promotionnelles, d'autres grands projets saoudiens de l'immobilier. Vous citez par exemple Tomorrowland dans le film À la poursuite de demain, comment s'appelle-t-il, avec George Clooney, c'est un film sorti en 2015 oui. De Disney. Le clip The Line aussi, de la ville The Line, qui convoque des imaginaires assez divers. Ça vous évoque quoi?
Ah oui, alors là aussi, quand je l'ai vu pour la première fois, parce que encore une fois, j'ai eu la chance, grâce à Neom et The Line, à pouvoir partager ma passion pour l'urbanisme et pour la science-fiction. Et quand je l'ai vu, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. La première vidéo montre une jeune fille tristounette qui marche dans un décor grisâtre, un petit peu comme la métropolis de Fritz Lang ou la Libria de Curvimer d'un Equilibrium. C'est sinistre. Et puis, il y a une lumière, il y a un panneau. Elle fonce, elle court et elle entre dans le symbole de Neom. Et là, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle dimension. Elle arrive, c'est plus la grisâtre, c'est la lumière, ce sont les couleurs. Et là, la référence pour moi est évidente, c'est Judy Garland qui est emportée dans sa tornade dans le magicien d'Oz et qui quitte le noir et blanc pour arriver dans la couleur. Et en plus,
elle passe par
la jeune fille... Voilà, elle passe par un anneau, hein, et cette jeune fille va entrer dans un monde à gravité zéro. Effectivement, elle papillonne entre les arbres, les cours d'eau, les structures monumentales. C'est effectivement là une référence qui est indirecte, mais qui nourrit complètement les imaginaires de ces villes qui sont pas complètement de science-fiction puisqu'elles veulent être réelles, mais qui, comme vous l'avez dit au début, risquent fort de rester dans le domaine de l'imaginaire.
Mohamed Ben Salman, qui est un amateur de jeux vidéo, est-ce que c'est aussi un amateur de romans et de films de science-fiction? Si je vous demande ça, c'est parce que si c'est le cas, il a peut-être oublié le principal, c'est que derrière ces villes futuristes, il y a presque toujours une véritable critique de ces villes forteresses coupées du monde et sécuritaires. On rappelle toujours cette passion de Ben Salman pour la science-fiction, mais c'est presque paradoxal.
C'est pas paradoxal parce que c'est typique de la science-fiction. La science-fiction, en général, décrit ce qu'on appelle des dystopies, hein, des situations qui sont catastrophiques, même si au départ, ça peut paraître sympathique. Et Tomorrowland, d'ailleurs, joue beaucoup sur l'ambiguïté du système. Mais effectivement, toutes ces villes-là sont des smart cities, hein, des villes intelligentes, qui vont être gouvernées par des programmes informatiques, par des algorithmes, par des intelligences artificielles. Et il y a une image, moi, qui m'a frappé, c'est dans une des vidéos pour Aqualum, qui est un des grands centres qui vont se construire dans le domaine de Neom. C'est un gratte-ciel, mais un gratte-ciel qui va forer la Terre, c'est-à-dire non pas un skyscraper, mais un earthscraper. Mm-hmm. Et tout est organisé. Il y a une image qui revient périodiquement. C'est une très belle jeune femme qui sert un petit peu comme de DJ avec tout un plateau et elle anime tout. Et je pense pour moi que c'est une incarnation de l'intelligence artificielle. Enfin, une incarnation virtuelle, bien sûr. Et donc, tout va être contrôlé. Et c'est ça qui fait un peu peur dans ces villes. Elles ne peuvent fonctionner que par des techniques très développées qui vont finir par être invasive et à peu près contrôler tout ce qui se passe. Le directeur de Trojena, c'est la station de sport d'hiver qui va être créée pour les Jeux asiatiques d'hiver qui auront lieu en 2029, Voilà, c'est vraiment demain, dit qu'on va utiliser la biométrie pour répondre aux exigences de sécurité. C'est bien affirmé. Et le modèle, dans ce cas-là, encore une fois, c'est la Chine. Hein, et il y a quelque chose d'encore pire, c'est Joseph Bradley, j'avais lu une de ses interviews, qui était le directeur exécutif de la Neom Tech and Digital Company, hein, qui dit que tous les habitants de The Line devront donner leurs données personnelles aux dirigeants. Pourquoi ? Ben pour faciliter la vie, pour mieux comprendre les besoins, etc., etc. Et bien sûr, ils auront une récompense. Ils seront récompensés s'ils donnent tout ça. Et il a dit cette phrase, je la retiens. Hein, il faut nous faire confiance. Sans confiance, il n'y a pas de données. Sans données, il n'y a pas de valeur. Et on est là au cœur de la problématique de ces villes intelligentes. La valeur est quelle valeur va-t-on donner à l'être humain ?
Et reste à voir qui aura envie de vivre comme ça, qui sera partant pour habiter The Line. Notamment, ça fait penser, puisque vous évoquez la science-fiction, à la zone du dehors d'Alain Damasio, où les habitants sont pucés, ça leur donne accès à certains endroits, ça leur en interdit d'autres. Peut-être juste pour conclure, Alain Musset, on arrive à la fin de cette émission, comme sur la planète de Coruscant dans Star Wars, la ville est toute en verticalité, The Line, il n'y a pas d'espace naturel pour autant. Or, c'était le grand discours de ces pouvoirs, mais ça peut rappeler aussi, à certains égards, nos pays occidentaux. C'est-à-dire, on parle d'éco-quartiers ou de villes qui seront verticales, donc qui auront moins d'emprise sur l'espace naturel. En réalité, il n'y a pas d'espace naturel dans ces villes-là, si ?
Ah, mais c'est justement, encore une fois, le paradoxe. En nous vend ça comme une archéologie, c'est-à-dire un mélange d'architecture et d'écologie, la nature sera dans la cité. Ce sera une nature complètement artificielle, bien entendu, mais elle y sera, on n'aura pas besoin de sortir. D'ailleurs, sortir dans le désert saoudien, c'est pas évident. Vous voulez aller vous promener dans la forêt, il y aura, on vous le promet, il y aura une forêt, il y aura des cours d'eau, il y aura des cascades, ce sera magnifique, et ce sera exactement comme dans les monades urbaines de Silverberg, notre grand auteur de science-fiction, qui nous décrit ce que sera The Line, avec des gratte-ciels de 3 km de haut, mais dans lequel il y aura tous les espaces naturels, entre guillemets, du monde dans lequel on pourra se promener.
Merci beaucoup Alain Musset. Station Métropolis, direction Coruscant, c'est le livre que vous avez fait paraître en 2019, audition Le Bélial. Merci d'avoir été avec nous. Merci Laura Saf, professeure à la New York University d'Abu Dhabi, chercheuse associée au Centre français de recherche sur la péninsule arabique basée au Koweït, et où vous êtes également Roman Stadnicki, chercheur associé et maître de conférence en géographie à l'Université de Tours. Vous ferez paraître dans quelques semaines, en début 2026, Au-delà de Dubaï, projeter et produire la ville moderne dans le monde arabe aux éditions de l'Aube. Vous étiez depuis ici Touraine, que je salue et remercie. Merci Anthony Guerrier de vous avoir reçu. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
La guerre au Soudan est souvent reléguée dans les médias, Catherine, mais vous nous en reparlez avec les réserves de nourriture qui sont épuisées dans la ville assiégée d'El Fasher.
Le dernier bastion de l'armée soudanaise dans l'ouest du Soudan, rappelle le Guardian, a résisté pendant plus de 500 jours aux attaques des paramilitaires qui bloquent désormais tout approvisionnement, tout accès humanitaire. Ces paramilitaires viennent d'achever l'encerclement d'El Fasher avec des tranchées et un mur de terre long de 57 kilomètres autour de la ville, indiquent The Sudan Tribune et la BBC, si bien que les 250 000 à 300 000 habitants d'El Fasher sont plus que jamais pris au piège. Dans des maisons détruites par les attaques constantes d'artillerie et de drones, plus de nourriture pour les civils, dont 130 000 enfants selon les Nations Unies. Les marchandises de contrebande comme du riz vendu à des prix exorbitants sur le marché noir n'arrivent plus à passer les points de contrôle des paramilitaires, ajoute The Sudan Tribune. Plus d'embase notamment, cette pâte généralement donnée aux animaux, fabriquée à partir de résidus d'arachides et de graines de sésame, une pâte dont dépendait la population d'El Fasher pour survivre. Je vous en parlais le 30 septembre dernier. Le temps passe, la faim s'accroît et la mort s'abat sur les âmes, préviennent les comités de résistance d'El Fasher dans les colonne de Sudan Tribune. Ils disent avoir dépassé le stade de la plainte pour celui de la lente annihilation. Des forces paramilitaires coupables de crimes de guerre, soulignent de leur côté des universitaires de Yale qui ont analysé des images satellites montrant que les paramilitaires ciblent intentionnellement les civils dans cette grande ville d'El Fasher du nord d'Arfour. Des tombes sommaires ont également été creusées ces derniers jours à El Fasher.
Et la capitale soudanaise, Khartoum, est visée depuis trois jours par des frappes de drones.
Des explosions ont secoué Khartoum à l'aube, décrit The Sudan Tribune. Les défenses antiaériennes de l'armée ont répliqué en lançant des drones, alors que de larges pans de la capitale soudanaise sont dévastés, privant les habitants de services essentiels. Touma n'a pas mangé depuis des jours. Le visage émacié, elle s'est pourtant rendue dans l'un des derniers hôpitaux en activité de Khartoum, explique la BBC dans un reportage glaçant. Presque comme dans le film Le choix de Sophie, Touma, 25 ans, a dû choisir lequel de ses enfants pouvait survivre. Qui de ses jumelles de 3 ans allait recevoir des antibiotiques car la famille n'a pas assez d'argent pour soigner les deux fillettes, se désole la BBC. Manaïl est sauvée, mais la vie de Massadjed ne tient qu'à un fil, à une sonde dans le nez de la fillette émaciée. Ses côtes sont visibles, chaque respiration difficile, image d'autant plus insoutenable pour sa mère qui se souvient de sa vie d'avant la guerre. Avant, nous avions une bonne situation, rien ne manquait à la maison. Nous avions du bétail, nous buvions du lait matin et soir, nous mangeions du porridge, nous avions des dattes. Mais aujourd'hui, on n'y arrive plus, confie Touma à la BBC. J'aimerais que mes deux filles se rétablissent et grandissent, que je les vois marcher et jouer ensemble comme avant, ajoute cette mère soudanaise, confrontée donc au choix impossible de ne faire soigner que l'une de ses filles, faute d'argent. Après une longue pause, regard tourné vers le sol, Touma se lamente, je veux juste qu'elles aillent mieux, mais je suis seule, je n'ai rien, je n'ai que Dieu. Khartoum, autrefois centre culturel et commercial sur les rives du Nil, est devenu un champ de bataille. Des décombres à perte de vue, voitures calcinées, immeubles mitraillés, balles oubliées, décrit la BBC. Les enfants de Khartoum ont été privés non seulement de leur enfance, mais aussi d'écoles et d'endroits sûrs où jouer. Et c'est sur une aire de jeu détruite, témoin d'une vie volée par plus de 2 années de guerre, que la BBC a rencontré Ahmed, un jeune Soudanais de 16 ans. Sur son t-shirt gris et limé est imprimé un immense smiley, mais son quotidien est tout autre, bien loin du sourire. Ahmed travaille sur cette ancienne aire de jeu. Il déblaye les gravats laissés par la guerre, payé $50 pour 30 jours de travail consécutif. Ahmed n'a plus de nouvelles de certains de ses proches. La guerre a déchiré des familles comme la sienne et son travail le lui rappelle presque quotidiennement, explique la journaliste de la BBC, choquée de voir Ahmed tenir entre ses main, une pince orange et un bout de mâchoire. J'ai été terrifiée quand j'ai découvert ça. Ça m'a vraiment secouée, confie Ahmed à la BBC. On a trouvé sur cette aire de jeu 15 restes humains. Il y en a d'autres là-bas, annonce l'adolescent soudanais, avant d'apporter un tibia et un fémur devant la caméra de la BBC. Ce sont des os de la jambe, confie Ahmed, comme les miens, dit-il d'une voix aussi innocente que terrifiée. Ahmed dit qu'il n'ose plus rêver d'un avenir, indique la BBC. Depuis le début de la guerre, ajoute l'adolescent de 16 ans, j'étais certain que j'étais destiné à mourir, j'ai donc arrêté de penser à ce que je ferai plus tard. Si vous avez la moindre question sur cette chronique éprouvante, je vous l'accorde, une adresse pour m'écrire, fcrdpi@radiofrance.com. C'est à partir de vos questions que nous construirons la revue de presse interactive du samedi.
Merci Catherine Dutu, c'est entendu. Demain, Culture Monde sera présenté comme chaque vendredi par Mélanie Chalandon avec notre partenaire du Monde, Marc Semo. Ils recevront les chercheurs Elisa Schell et Laurie Kenton pour parler des États-Unis, une démocratie sous pression. Table ronde précédée d'un retour du Cameroun avec Maria Malagardis à l'occasion de l'élection présidentielle. Dans un instant, les Midis de Culture.